1492, Christophe Colomb croit débarquer en Inde après avoir quitté l'Europe par la mer. En arrivant, il sort son fusil, va voir les habitants des lieux et il dit « À partir de maintenant, ici, c'est l'Espagne ». Avant de vous montrer le côté sombre de Christophe Colomb, il faut du contexte. Déjà, c'est qui Christophe Colomb? Même s'il a travaillé pour l'Espagne, c'est un Italien. Il est né à Gênes en 1451, où il vit avec sa famille, dans un appartement sans prétention, avec vue sur mer. Et cette vue sur mer, elle va orienter sa carrière. Christophe Colomb, le fils d'un marchand de laine italien, est devenu un marin et un explorateur hors normes. Comme tout marin qui se respecte, il navigue. En 1476, il embarque sur un convoi italien qui va à Lisbonne, puis en Angleterre. Sauf qu'à mi-parcours, il est attaqué par des pirates français, il va se défendre en pleine mer face à l'ennemi. Il est à deux doigts de couler, mais il réussit à s'échapper et se mettre à l'abri. Il atterrit avec son bateau en vrac dans un port du sud du Portugal et coup de chance, il a de la famille sur place. Du coup, il part chez son frère qui est cartographe à Lisbonne. Son frère, il est bien implanté dans la communauté italienne au Portugal et il va l'aider à retrouver un job de navigateur en activant ses réseaux. Sauf que pour Christophe Colomb, naviguer ça suffit pas. Trop monotone, trop la routine, trop sur des routes toutes tracées. Assez vite, il s'ennuie et son rêve, sa passion profonde, c'est d'explorer de nouvelles routes maritimes. A l'époque, le business ça se passe en Asie. Pour y aller, c'est possible par la terre, sauf que c'est long, et il faut passer par des royaumes musulmans. Et comme il y a marqué chrétien sur les passeports européens, le passage est interdit sous peine de décès prématuré. Christophe Colomb, lui, son projet d'exploration, c'est d'arriver en Inde, mais par l'ouest, en traversant l'Atlantique à la voile, du jamais fait. A l'époque, on n'a aucune idée de ce qui se passe par là-bas. On navigue en minimisant le risque, on reste pas trop loin des côtes. Et comme je vous ai dit, son frère il a un réseau, mais il dessine aussi des cartes. Il a un stock de cartes qui donne les vents et les courants dominants sur l'Atlantique. Enfin, sur l'Atlantique, jusqu'au max de ce qu'on connaît déjà de l'Atlantique. Après c'est inexploré, inconnu, on n'en sait rien, vous voyez. Et là Christophe Colomb il se dit, maintenant il faut que je fasse une levée de fonds pour financer les bateaux, les repas, les salaires des gars, etc. etc. Il parle de son idée à droite à gauche et un groupe de trois experts est réuni par le roi du Portugal. Les trois experts, c'est un géographe, un astronome et un médecin, et ils sont là pour vérifier que le projet de Colomb tient la marée. C'est des experts pointus à qui on la fait pas sur la faisabilité des projets comme ça. Ils ont des diplômes, un CV long comme ça, du coup ils écoutent l'exposé de Colomb avec beaucoup d'attention. Fin de présentation, franchement, ça s'est bien passé, Christophe Colomb attend, il espère, c'est le rêve de sa vie, il est sur le point de s'accomplir. Il a tout donné pendant son oral, tout détaillé, répondu à toutes les questions, et la décision tombe. Désolé Christophe, le projet est super, mais c'est non, trop cher, trop risqué. On est en 1485, et pour rebondir, deux amis moines de Christophe Colomb lui conseillent d'aller tenter sa chance en Espagne. Du coup, il y va. Le projet est solide, il a pu retravailler ses arguments depuis le refus au Portugal, il a bien dormi la veille, il arrive à la porte du château. Toc toc toc. Y'a quelqu'un? Non. Les rois catholiques sont partis à Cordoue pour gérer la guerre contre le royaume de Grenade. Pas de bol. Les rois catholiques, c'est un couple. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, gardez-les bien en tête parce qu'on les retrouve un petit peu plus loin dans cette histoire. De son côté, Colomb, il est saoulé par le fait que son projet n'avance pas, il y passe beaucoup trop de temps sans résultat, mais il va optimiser son déplacement en Espagne. Vu qu'il est sur place, il rencontre plusieurs personnalités espagnoles avec qui il va échanger sur son projet. Il se fait peu à peu un petit réseau de personnes influentes qui pourront l'aider à convaincre les rois dans le futur. De réunion en dîner mondain, tout le monde lui dit que c'est franchement une bonne idée et que ça pourrait propulser l'Espagne au premier rang des nations mondiales. Le truc, c'est que personne ne peut valider ça à ce moment-là. Il faut revenir plus tard. Deuxième tentative, deuxième échec, mais tout n'est pas perdu. Avant de vous raconter comment il a réussi à récolter le gros chèque pour partir, il faut que je vous raconte ce que ça veut dire propulser l'Espagne au premier rang des nations mondiales. Parce qu'à ce moment-là, l'Espagne... comment dire ? Bah l'Espagne c'est la misère. De la pauvreté partout, des maladies, rien à manger, pas super attirant pour passer des vacances. Il faut sortir de la misère. Petit retour 40 ans en arrière, on est en 1450, et si vous avez bien suivi, Christophe n'est pas encore né. L'Europe est composée de petits royaumes, et la zone est conforme à ce qu'on voit sur les peintures d'époque. On a d'un côté des agriculteurs qui ont du mal à boucler les fins de mois, et de l'autre, une poignée de propriétaires terriens qui font rien de leur journée. Enfin, qui font rien. Si justement, ils passent leur temps à taxer ceux qui bossent dur dans les champs et qui crèvent la dalle. Bref, la vie en Europe est difficile, il fait froid dans les chaumières, les gens ont du mal à manger, et pendant ce temps-là, les nobles font la fête au château. Les privilèges, tout ça, tout ça. Et si on dézoome, au même moment, il y a plusieurs empires dans le monde qui se mettent vraiment, vraiment bien. Au Moyen-Orient, on a de la soie à foison, en Inde, on produit des épices qui se revendent une fortune, et on a la Chine qui, déjà à l'époque, était à la pointe de la technologie. Les Chinois, ils ont la poudre à canon pour faire la guerre et les feux d'artifice pour faire la fête après la guerre. Pour l'époque, c'est une avancée incroyable et ça s'arrête pas là. Les Chinois, ils étaient aussi en avance sur les transports maritimes et ils avaient d'excellents bateaux pour transporter toutes ces marchandises. Du coup, pendant qu'en Europe, les fermiers se gèlent en chargeant des ballots de paille sur des charrettes, on a le reste du monde qui prospère en faisant du commerce. Bref, ces empires s'enrichissent les uns les autres, non seulement avec leur production, mais aussi avec leur savoir-faire et leur intelligence. Chacun s'échange ses spécialités, ça crée une spirale qui profite à tout le monde, une spirale ascendante, sauf pour ceux qui sont pas dans le game. Et ceux-là, ils restent sur le bord de la route, et clairement pour l'Europe à ce moment-là, c'est bande d'arrêt d'urgence, warning, moteur qui fume. Sauf qu'au lieu de pleurer, on a deux pays qui vont pas laisser le retard se creuser plus longtemps. Ils en ont marre de voir autour de l'abondance à profusion, la diversité des fruits, des légumes, des viandes, et de devoir manger trois radis et s'habiller avec des habits qui grattent. L'Espagne et le Portugal veulent leur part du gâteau, quoi qu'il en coûte. C'est dans ce contexte que se déroule le début de la domination de l'Europe sur le monde. L'Espagne et le Portugal aux avant-postes de la conquête du globe. Le plan du Portugal, c'est de contourner le continent africain et profiter de la route pour faire du commerce avec les grandes puissances d'Afrique. Et franchement, ça marche pas mal. Le pays commence à étendre ses relations à l'international et la richesse du pays flambe. C'est des années de folie, on envoie de plus en plus de bateaux en Asie et grâce à cette route, du jour au lendemain, à Lisbonne, tout le monde se promène avec des habits de luxe et des bracelets en or. On met du curry et du poivre sur la morue grillée, bref, la vie devient douce et confortable. Et juste à côté, de l'autre côté de la frontière, l'Espagne voit le Portugal qui cartonne. Et ils en ont toujours autant marre de labourer des champs avec des ânes, mais pour dépasser le Portugal, il faut faire mieux que le Portugal. Et pour faire mieux, il faut une stratégie différente. Pour vous rappeler qu'ils voulaient vendre un projet différent pour faire du commerce en Asie, un projet qui va direct en Inde sans faire le tour de l'Afrique, c'est à ce moment-là qu'on ressort Christophe Colomb de sa tanière, il buvait pour oublier ses rêves, et on le pointe devant les rois catholiques qui sont revenus de la guerre. Et pour la troisième fois, Christophe fait son speech. Fin du pitch, réponse des rois, super projet, allez-y Christophe. À ce moment-là, dans son contrat, il est écrit qu'il sera gouverneur des territoires découverts, et qu'il aura un dixième des richesses extraites de ces territoires. Gardez bien ça dans un coin de la tête, la nature profonde de l'homme se révèle souvent par l'appel de l'argent. Bon, il a le budget pour partir, et c'est à ce moment-là que ça va commencer à vriller. On va commencer par casser un mythe, Christophe Colomb, c'est pas le premier à avoir découvert l'Amérique. En fait, plusieurs explorateurs avaient déjà atterri en Amérique bien avant Colomb, à commencer par les Vikings, qui avaient une colonie au Canada. En revanche, on le crédite pour cette exploration parce que ça a été le premier à établir un contact durable entre l'Europe et l'Amérique. Enfin, durable. Seulement dans le temps, parce qu'en fait, ça a été une colonisation de masse en mode bourrin du Nouveau Monde par les Européens. Vous voulez les détails, on y vient. Donc rappelez-vous, Christophe Colomb, il a son chèque pour l'expédition, et maintenant, faut le dépenser. Il achète trois bateaux, de la nourriture, mais il a un problème. Quand il propose à des gens d'aller là où personne n'est allé, en passant par une route que personne ne connaît, personne n'est chaud pour le suivre. Les gens ont peur, ils sont flippés. Flippés de se noyer, flippés de ne pas arriver, flippés de ne pas revenir. Mais il va quand même trouver des compagnons de mer à un endroit où personne ne peut dire non à sa proposition, en prison. Toc toc toc, les gars, on a prévu de vous condamner à mort dans d'atroces souffrances, mais si vous voulez, vous pouvez découvrir le monde en bateau, ça vous intéresse ? Des prisonniers sont graciés et sortis de prison pour compléter l'équipage. À partir de ce moment-là, tout ce petit monde part sur les fameuses caravelles. Alors une caravelle c'est quoi ? C'est pas du tout ce que je croyais avant de faire mes recherches. Dans ma tête c'était un énorme bateau de 70 mètres de long, 4 étages, 3 mâts, un équipage de 500 personnes, avec une grande suite vue sur mer pour le commandant. Mais en fait, j'avais tout faux, une caravelle ça fait 25 mètres de long, on met 80 gars à l'intérieur et ça qu'un seul mât. Et 25 mètres, c'est 10 mètres de moins que le remorqueur sur lequel j'ai fait un reportage au port du Havre, et c'est aussi 10 fois plus petit que le Costa Concordia. L'histoire du Costa Concordia, c'est une histoire de fou pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, vous savez comment ça se passe. Et là, Christophe Colomb, il est dans son élément. Il se régale pendant la traversée, ça se voit, il est fait pour ça, il est fait pour la navigation, il règle ses voiles nickel, le cap est parfaitement géré, il a un talent incroyable. Sauf que l'ambiance sur le bateau, on va pas se mentir, elle est pourrie. Enfin, au début c'était bien, mais la traversée, elle commence à durer plus que prévu. En même temps, c'était compliqué de prévoir une date d'arrivée, ils sont partis plein ouest, mais ils avaient aucune idée de la distance. Et au bout d'un moment, les réserves de bouffe commencent sérieusement à diminuer, il faut se rationner, et c'est bien connu, le moral du marin est dans la gamelle. On ajoute à ça le stress qui monte de jour en jour, la panique de pas savoir où on va, et c'est à partir de ce moment-là, dans une atmosphère tendue, loin de la société, que Colomb va commencer à montrer son vrai visage. Le 12 octobre 1492, à 2h du matin, un marin qui s'appelle Rodrigo de Triana annonce que la Terre est en vue. Soulagement de l'équipage, tout le monde se prend dans les bras, c'est la fête à bord. Par prudence, et parce qu'ils savent pas exactement où ils sont, ils attendent le lever du jour pour accoster. Alors faut savoir qu'une récompense avait été prévue pour le premier qui verrait la Terre, Du coup, Rodrigo, il va toquer à la cabine de Colomb qui dort pour lui annoncer la nouvelle et réclamer ses pièces d'or. Toc toc toc, qui me réveille? Ouais, c'est bien Rodrigo, mais j'ai vu la Terre avant vous. Quand il débarque au lever du jour, il découvre un paradis. Nature splendide, de la nourriture et des métaux précieux qu'ils avaient jamais vus. L'eau est turquoise, les arbres sont pleins de fruits, tout a l'air bon et il y a des gens. C'est habité par des indigènes qui ont un gros train de retard sur la mode. Ils sont habillés en slip et ils chassent avec des bouts de bois. En observant les locaux, ils comprennent vite qu'ils ne correspondent pas à la description qu'on leur avait fait du peuple indien. Ils ont aucune idée d'où ils sont, mais peu importe, ils ont une mission. Bon les gars, on est là pour faire du commerce. Et puis, Colomb se ravise. Les locaux n'ont pas de fusils, pas d'armée, ils sourient tout le temps et ils ont pas l'air méchants. Changement de plan les gars, en fait ici, c'est chez nous. Depuis le début, les populations locales sont ultra accueillantes. Elles partagent leur nourriture, n'ont montré aucune forme de méfiance ni de résistance. Les gars, ils nous ont laissé être ici sans combattre, donc évidemment, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'objection à ce que ce soit chez nous. Et en effet, sur cette île, le sens de la propriété n'existe pas, les gens sont pacifiques et l'appât du gros gain des Européens va sonner la fin de l'insouciance pour les locaux. C'est le début de leur descente aux enfers. Vous l'avez compris, le match est lancé pour la conquête de l'Ouest, mais l'Espagne et le Portugal ne veulent pas se battre entre eux pour se partager un si gros gâteau. En même temps, rien que l'Amérique du Sud, c'est 30 fois plus grand que le Portugal et l'Espagne réunis, du coup ça laisse une bonne marge d'expansion. Pas de guerre du coup, et à la place, ils vont tracer un trait sur la carte. Juste une ligne. La règle est simple, tout ce qui se trouve à gauche de cette ligne appartient à l'Espagne, et tout ce qui se trouve à droite appartient au Portugal. Et c'est cette ligne droite qui explique pourquoi on parle portugais au Brésil et espagnol sur le reste du continent. Les Européens n'ont rien demandé à personne, ils n'ont pas négocié avec les indigènes, ils ont simplement tracé un trait sur une carte. Faut savoir que pour l'époque, c'est un énorme changement de paradigme. Au lieu de faire du commerce, on s'approprie les biens, on les vole. Et ils volent tellement sans aucune gêne que les Portugais ne se représentent plus le monde au sens large, mais ils se représentent leur monde à eux. Regardez cette carte, on dirait le style de carte de ceux qui pensent que la Terre est plate. On voit le Portugal, l'Afrique, le bout de l'Amérique qui leur appartient, façon de parler, et puis c'est tout. Dans les quatre coins de la carte, on a du vent qui souffle au centre, cette zone, c'est leur zone. Sous ce nouveau paradigme, les deux empires ont très rapidement étendu leur territoire. Ils imposent leur langue, l'espagnol ou le portugais, et ils pillent, dans le plus grand des calmes, le tabac, le sucre, les mines, etc., etc. Enfin, le plus grand des calmes, pas pour tout le monde. À l'époque, les indigènes sont pas immunisés contre les virus d'Europe, et Colomb et Saga, ils en ont ramené une très belle collection de virus et de bactéries et de germes. Donc au contact des nouveaux, la population sur place va mourir en masse de ces maladies qui existaient tout simplement pas chez eux. Sympa. Et comme si ça suffisait pas, qui dit nouveaux propriétaires dit nouvelle culture, et entre autres, nouvelle culture religieuse. Et c'est là que la limite entre la ferveur de convertir les peuples au catholicisme et le désir de conquête devient un petit peu floue. Ils se servent de ça pour justifier des massacres. Les locaux qui se convertissent pas sont exécutés. À l'époque, ça passait nickel comme excuse pour tuer et donc voler des territoires. Et là, c'est le bon moment pour vous rappeler du Christophe Colomb du début. Vous savez, le gars a plein de curiosité, de passion, avec l'envie de découvrir le monde, de créer des nouveaux liens sociaux, commerciaux avec d'autres peuples. Il a suivi d'un petit papier signé avec la couronne espagnole qui le nomme gouverneur et qui le couvre de richesses pour découvrir son vrai visage. Ce visage, c'est celui d'un aventurier qui a vrillé. Par contre, côté Espagne métropolitaine, c'est une autre chanson. Ils sont pas tout à fait alignés avec sa vision, et Christophe Colomb va se faire taper sur les doigts. 4 ans plus tard, Christophe Colomb repart pour l'Espagne, on est en 1996, et il emmène avec lui 500 indigènes pour les refourguer comme esclaves. Un peu comme des tapis qu'on vend sur le marché. Il en perd 200 pendant le voyage, qui meurt de maladie, mais pour Colomb c'est un petit incident de parcours, il lui en reste toujours 300. Et quand il arrive fier de ses conquêtes devant la cour espagnole, il se fait sévèrement remettre les idées en place. Les rois catholiques font tout de suite libérer les survivants, parce qu'ils considèrent que les indigènes des terres volées, pardon, des terres découvertes, sont des Espagnols à part entière, et ils bénéficient de toute leur protection. Ouais, vous avez bien entendu, c'est leur sujet. Bon, c'est toujours mieux qu'esclaves, ok, mais ils sont quand même expropriés de leur pays par l'autoproclamé gouverneur Colomb. Mais dans cette histoire, il y en a qui ont eu encore moins de chance, c'est les Africains. Eux, ils avaient rien demandé à personne, mais pour augmenter le rendement des plantations et des mines en Amérique, il n'y a pas 36 manières, on a besoin de bras. Et pour ça, les Espagnols vont se servir en Afrique. Sans état d'âme, ils vont déporter des esclaves d'Afrique par millions. On appelle ça les grandes découvertes, le nouveau monde, la fierté d'une époque où on a en fait pillé l'Amérique et exploité l'Afrique pour enrichir l'Europe. Voilà, c'était la face cachée de l'œuvre du grand navigateur Christophe Colomb. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer celui qui s'affiche à l'écran.